Bonjour à tous, je suis super content d'être là parmi vous et devant vous. Et je souhaiterais vous partager ce matin ce que j'ai pu retenir de la formation décentralisée auquel quelques-uns étaient là, donc ils vont pouvoir juger si je dis des bêtises ou pas. Donc c'était une formation décentralisée donc du Binnenberg à Darney le samedi 30 septembre qui avait pour thème « Pour une église participative ». Maintenant on va bien voir si ça marche, et ça a l'air de marcher. Conditions donc pour être une église participative. Tout d'abord, et ça on ne l'a peut-être pas fait à la formation, je vous propose de regarder plus en détail chaque mot. Qu'est-ce que c'est une église et qu'est-ce que c'est être participative? C'est ce que j'appelle les définitions. Donc la définition d'une église dans la Bible. C'est un peu... oser de ma part de me lancer dans une définition de l'Église, mais voilà ce que je peux avoir trouvé. Étymologiquement, le mot « Église » vient d'une racine qui signifie « appeler hors »,« ecclésia ». Concrètement, les hommes sont appelés hors de chez eux. Nous sommes tous hors de chez nous et nous sommes rassemblés ici dans son Église. L'Église est le rassemblement d'hommes et de femmes qui se sont laissés atteindre par une parole et qui, à cause de cette parole, sont sortis de leur enfermement. Le jour de la Pentecôte, Pierre prend la parole et annonce l'évangile de Jésus-Christ. Des hommes sont à Jérusalem pour la fête. Ils l'écoutent et sont bouleversés de ce qu'ils entendent. Ils se font baptiser et constituent la première église de l'histoire du christianisme. Je voudrais partager avec vous ces textes de Acte 2, les versets 1 à 4, puis les versets 14 à 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toutes les maisons où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et à partir du verset 14, « Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur donna en ces termes. « Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et elles prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, après l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On peut dire que l'Église est le rassemblement des hommes et des femmes qui invoquent le nom du Seigneur. Dans la suite de ce chapitre des Actes des Apôtres, cette toute première Église est décrite comme le lieu où est dispensé l'enseignement de la parole de Dieu, où est exercée les prières. Il existe une grande communion fraternelle, où les frères et sœurs vivent le partage et la solidarité, où est partagé le pain comme signe de communion avec le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver trois images pour parler de l'Église. Matthieu, dans son évangile, parle d'une maison de la première Pierre et l'apôtre Pierre. Jean parle d'une vigne. Jésus est le cep. Les chrétiens sont les sarments et le Père est le vigneron. Paul, dans ses épîtres, parle d'un corps dont Jésus est la tête et dont les croyants sont les membres. Voilà les trois images que je voudrais que vous gardiez pour... définir l'Église. Le deuxième mot, c'est participative. qu'est-ce qu'être participative? Je me suis vraiment posé la question. Ici, bon, c'est un peu facile parce que tout le monde participe, tout le monde fait quelque chose, tout le monde participe à la présidence. Mais pour expliquer le mot participative, j'ai été chercher sur Internet un exemple de démocratie participative. Et cet exemple de démocratie participative, je vais y arriver, je l'ai trouvé dans la vie politique d'une commune. C'est celle de Vendeuvre-les-Nancy. Et toi, je ne savais pas ça. Et je vais vous donner cette définition. La démocratie participative est une forme de partage et d'exercice du pouvoir qui permet d'augmenter l'implication des citoyens dans la vie politique, d'accroître leur rôle dans les prises de décision. Elle est basée sur la participation volontaire à la vie publique de tous, habitants, associations, commerçants, syndics, et se fait par le biais de consultations. Associer les habitants le plus en amont possible aux décisions sur les principaux projets municipaux renforce la démocratie locale. Les conseils de quartier sont un lieu privilégié d'expression des habitants, un lieu de débat et d'échange, et concourent à une meilleure prise en compte des attentes des habitants pour améliorer les liens avec les services municipaux et la qualité de vie. Ils contribuent à éclairer les décisions du conseil municipal. Voilà pour ce qui est d'exemple de démocratie participative. Que dit la Bible sur le fonctionnement souhaité par Jésus pour l'Église? Je vous invite à prendre un texte, l'enseignement de Jésus dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, les versets 35 à 45. Marc 10, versets 35 à 45. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent auprès de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit Jésus. Ils lui répondirent « Quand tu seras dans ton règne glorieux, accorde-nous de siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Pouvez-vous boire la coupe de douleur que je vais boire ou recevoir le baptême de souffrance que je vais recevoir? Et ils lui répondirent, nous le pouvons. Jésus leur dit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous recevrez le baptême que je vais recevoir. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siégera à ma droite ou à ma gauche. Ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. Quand les 10 autres disciples entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous et leur dit, « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme chefs des peuples les commandent en maîtres, et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne se passe pas ainsi parmi vous. Au contraire, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. » L'Église est bâtie sur la confession de foi de ses membres. L'Église est habitée par l'amour du prochain. L'Église a une place unique pour chacun de ses membres. Lorsqu'il parle de l'Église, le Nouveau Testament ne se contente pas d'utiliser d'images. Il nous donne aussi un certain nombre de critères qui nous permettent de la qualifier comme Église du Christ. Nous en retiendrons 3. L'Église est bâtie sur la confession de ses membres. L'Église est habitée par l'amour du prochain. L'Église a une place unique pour chacun de ses membres. Et les 3 critères que je vous propose de retenir. Une église dans laquelle la pauvreté est richesse. Une église dans laquelle le petit est prioritaire. Une église dans laquelle les responsabilités sont des services. Pour Jésus, l'église doit être une église dans laquelle le petit est prioritaire. Le témoignage rendu au crucifié intègre l'accueil du petit. Je l'invite à prendre le chapitre 18 de l'Évangile de Matthieu, ce discours de Jésus sur la vie commune, sur la discipline de l'Église. Justement, dans ce chapitre 18, plusieurs valeurs sont mises en pointe. La première des valeurs, c'est l'accueil du petit. Je t'invite à lire les versets 1 à 5 de Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même. » La deuxième valeur mise en pointe, c'est l'accueil de celui qui est égaré. L'accueil de celui qui est égaré. Versets 12 à 14. Qu'en pensez-vous? Supposons qu'un homme possède 100 moutons et que l'un s'égare. Ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est égaré? Je vous l'affirme. S'il le retrouve, il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Une autre valeur mise en pointe, c'est le refus du commérage. Versets 15 à 17. Si ton frère se rend coupable à ton égard, va le trouver seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi, afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de deux ou trois personnes. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un incroyant ou un collecteur d'impôts. Une autre valeur mise en pointe, et qui est beaucoup plus positive, c'est le pardon fraternel. Versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi? Jusqu'à 7 fois ?»« Non, répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Paul ira dans la même direction en disant que dans l'Église, l'amour du prochain et particulièrement du petit qu'il ne faut pas choquer est prioritaire par rapport à la liberté que nous avons reçue en Christ. On trouve ça dans Romains 14. Mais toute Église a besoin d'une structure pour fonctionner. Une église est un lieu où les responsabilités sont un service. Je suis allé dans le mauvais sens. Non, c'est bon. Plusieurs modèles d'exercice de l'autorité nous sont présentés dans le Nouveau Testament, mais un terme générique les rassemble tous, c'est celui de diaconat, que nous pouvons traduire par « ministère » et qui veut dire « service ». Le pouvoir dans l'Église est une nécessité, mais ce pouvoir est défini comme un service et doit être conçu et vécu comme tel. L'opposition ne se situe pas entre pouvoir et refus du pouvoir, mais entre le pouvoir conçu comme une domination et le pouvoir vécu comme un service dans l'Église. Les textes que nous avons parcourus nous ont permis de relever certains points qui définissent une Église chrétienne. L'Église est une maison construite à partir de la foi de ses membres. L'Église est une vigne dont le cep est le Christ, la sève est l'amour. L'Église est un corps, on l'a vu au début, dans lequel chacun a une place unique. Dans l'Église, la pauvreté peut être une richesse. Dans l'Église, le petit est prioritaire. dans l'Église, les responsabilités sont des services. Quelles conditions devons-nous remplir pour être une Église participative ? Jésus refuse le modèle politique et aussi le modèle religieux, qui serait un modèle hiérarchisé, pyramidal et qui parfois est oppressif. Jésus nous encourage à un fonctionnement communautaire marqué par le service. Le service est une manière d'être et d'agir. Ce n'est pas seulement un état d'esprit, mais c'est une manière de faire, d'être. J'aime bien cette image de l'Église qui est un cercle et non une pyramide. Il n'y a pas de hiérarchie. Nous sommes tous au même niveau. Et c'est vrai que ce qui nous réunit, c'est cette ligne verticale vers le Seigneur. Dieu dans l'Église veut intégrer tout le monde. L'essentiel pour tous, c'est la relation verticale, la relation à Dieu. Ce cercle composé de personnes différentes avance ensemble au service de Dieu. Tout le monde peut avoir droit à la parole et participe à la communion fraternelle. Tout comme la démocratie participative, l'Église participative est basée sur la participation volontaire à la vie de l'Église de tous ses membres. Elle doit associer les membres le plus en amont possible aux décisions sur les principales activités et projets d'Église. Le projet de Dieu, c'est que l'Église grandisse ensemble grâce aux divers dons donnés par lui au sein de la diversité de ses membres en vue de l'unité parfaite. L'Église doit trouver un équilibre au sein de la tension entre unité et diversité. Le fait de confesser la même foi n'empêche pas les hommes et les femmes de conserver leur personnalité, leur caractère. Comment ces différences s'harmonisent-elles au service d'une même Église ? Paul a répondu à cette question en utilisant l'image d'un corps. On a déjà parlé plusieurs fois, il dit dans son épître aux Éphésiens, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, mais nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à ses articulations, se construit dans l'amour. » C'est Éphésiens 4, versets 11 et 13. Trois remarques nous aideront à saisir toute la richesse de cette image. C'est une invitation à découvrir la place unique de chacun. Tout le monde a une place dans l'Église de Jésus-Christ. Chacun est unique et irremplaçable. Deuxième remarque, lorsque chacun est à sa juste place, c'est le corps tout entier qui est renforcé. La diversité est une richesse. Troisième remarque, une partie du corps est occupée avant même que la première personne n'entre dans l'Église. Cette première partie du corps occupée, c'est la tête. Ce n'est ni l'apôtre, ni le pasteur, ni le conseil, ni qui que ce soit qui est à la tête de l'Église, mais c'est Jésus-Christ. Par contre, on a parlé des articulations. Le corps est lié par ces articulations. Et pour moi, dans l'Église, les articulations, ce sont les responsables. Ils sont importants si toutefois leur responsabilité est vécue dans le service de l'Église, demandé en Jésus-Christ. L'organisation favorise le vivre ensemble. Dieu lui-même, à l'origine du monde, a organisé la création. Il faut respecter et reconnaître ses responsables, ne me jetez pas de tomates à la fin, qui ont comme rôle primordial de prendre soin de tous les membres, afin que chacun puisse trouver sa place au sein de l'Église. Dans l'Église, l'accueil est primordial. La grâce doit rester dominante bien avant la considération des compétences ou des statuts. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui accueille. Notre organisation d'Église doit permettre à chacun d'avoir accès à l'information. Alors des fois, il y en a un peu beaucoup en même temps, je le reconnais. De participer à aux réflexions, de participer aux prises de décision. Tout comme dans l'exemple de la démocratie participative, il doit y avoir des temps de parole, des temps d'écoute où chacun puisse s'exprimer afin de renforcer le sentiment d'appartenance. Le processus est plus important que le résultat. Et justement, les responsables doivent être les garants de ce processus. La fin de la formation a défini le rôle des responsables d'église. Et c'était là le plus difficile finalement, parce que jusque-là, ça allait. Le rôle des responsables d'église, c'est être sensible aux aspects discriminants. C'est pouvoir donner la parole, c'est la façon de faire. C'est être attentif aux personnes, veiller à la façon d'utiliser les ressources et les compétences. C'est être encourageant, mettre en confiance, pouvoir dire on a le droit d'essayer, on a le droit de se tromper, être formateur. Une des images qui m'a marqué, c'est que Jésus, lui-même, après avoir montré l'exemple à ses disciples, les a fait participer à l'évangélisation. Il les a envoyés dans les différentes villes. Et c'est savoir rassembler, coordonner, déléguer et discerner. En une phrase reprise de l'image du corps, les responsables doivent désirer être des jointures et les membres désirer croître dans l'amour les uns des autres afin de rester attachés et de faire croître le corps tout entier. Que le Seigneur puisse nous donner de vivre selon ce modèle de l'Église participative, pour lui et en lui. Amen.